Alors, nous n'allons pas évoquer le travail de mémoire, à vrai dire. Nous allons parler, ou essayer de parler, d'évoquer la diffusion. Alors, la diffusion fait partie de ces pratiques que nous vivons comme des évidences, sans plus vraiment nous interroger sur son fonctionnement. Nous vivons dans une société médiatique et nous sommes immergés dans cette société au point de croire que rien ne semble arriver en dehors ou sans les médias. Ainsi, quand on parle de diffusion aujourd'hui, on pense immédiatement diffusion télévisée ou diffusion radiophonique. Or, il existe toutes sortes de diffusions. On peut parler de diffusion des idées, de rumeurs, des témoignages, des savoir-faire, la diffusion des livres, etc. Pour ce qui est des médias, par contre, les évidences s'imposent. Par exemple, si la RTBF, télévision donc de service public, n'avait pas diffusé régulièrement pendant 25 années un programme révélant l'intérêt d'images enregistrées par des cinéastes amateurs, eh bien, nous ne serions peut-être pas sensibles aujourd'hui à la dimension patrimoniale des films de famille, et nous ne serions peut-être pas prêts non plus à apprécier leur contribution à notre connaissance de la grande histoire. C'est dire la force, l'impact des médias dans la diffusion d'une idée, d'un projet, d'un document, d'un son ou d'une image. D'autant plus que les médias ne cessent d'évoluer rapidement, au point d'être capables de remettre peut-être prochainement en question les considérations que nous échangeons aujourd'hui. Il y a ainsi quelques semaines se déroulait au Forum des images à Paris un festival consacré à des documentaires, à des fictions, certains allant jusqu'à 52 minutes, réalisés au départ de séquences enregistrées par le GSM. Encore imparfait, bien sûr, cherchant ses marques, l'événement nous annonce sans doute à plus ou moins court terme de nouvelles perspectives de diffusion. Alors comment évoquer la diffusion, cette projection d'images, de sons dans l'inconnu, à la manière dont on jette une bouteille à la mer, autrement qu'en termes légers? Alors qu'il s'agisse d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, avant de penser diffusion, eh bien, il faut une idée, un projet, une réalisation, mais sans diffusion, la meilleure idée, le meilleur livre disparaît. Alors à quoi peut bien correspondre la diffusion? Diffuser consiste aussi à faire circuler, voyager un objet, qu'il s'agisse de sons, d'images, de livres, d'idées. Objet qu'on va déplacer dans l'espace et le temps. Ainsi, ce qui caractériserait la diffusion, c'est l'action de propager une connaissance, un savoir, une action de distribuer commercialement un livre, un journal, une action de transmettre par la radio ou la télévision. Cette mise en mouvement utilise des outils, les canaux de diffusion. Le flux, l'importance de ces canaux est orientée, gérée par le propriétaire de la structure de diffusion, appelons-le diffuseur. Celui-ci prend en charge, oriente, prépare l'action, en fonction et en direction d'un récepteur potentiel, d'une cible qu'il appellera son public, son interlocuteur privilégié. Dès que vous écrivez un texte, vous ressentez le souhait de le faire lire, de le faire partager, de le faire découvrir par quelqu'un d'autre. Dans ce cas, dans le cas d'une lettre, vous êtes votre propre diffuseur. S'il s'agit d'une initiative plus importante, il vous faudra trouver et convaincre un diffuseur de l'intérêt de votre projet, car on ne vous accordera pas les moyens de réaliser un projet sans avoir une quasi-certitude de diffusion, et un projet ne peut exister sans perspective de diffusion. Cette perspective de diffusion sera elle-même conditionnée par l'évaluation des risques, ou plutôt du retour, du bénéfice culturel, financier ou autre, qu'on espère pouvoir retirer de la diffusion du produit. Quel que soit le projet que vous soumettrez à un média, la possibilité des conditions de diffusion vous échapperont. Vous pourrez par contre comprendre qu'il faut que le projet s'inscrive dans la politique de l'institution et corresponde à l'image de marque que le média veut donner à son public à un moment précis. Il y a eu ainsi des époques d'éducation permanente, d'animation culturelle. Il y a aujourd'hui un certain intérêt pour les programmes capables de séduire le public, des programmes qu'on surnomme « sexy ». Pourquoi pas? Mais même ces considérations ne permettront pas vraiment d'identifier, de comprendre ce qui explique la diffusion d'un programme. Pour l'auteur du projet, la diffusion correspond à une sorte de naissance. Sans diffusion, qu'il s'agisse d'archives, de création, l'objet n'aura d'autre avenir que de se transformer en nid à poussière. À moins de créer, d'imaginer d'autres formes, d'autres contextes de diffusion. La structure de diffusion assure, réunit les conditions d'une sorte de passage du statique au dynamique. On prépare la diffusion en mettant en forme, en réécrivant, en adaptant. Il s'agit de respecter une durée, un format, un style correspondant à une case dans une grille de programmation de diffusion. La diffusion est orchestrée et mise en scène afin de toucher le public le plus large possible. Dans ces activités, ces moments de disponibilité, d'écoute, on verra un habillage, un ton, un style propre à retenir l'attention de ce public. Qui dit diffusion dit évidemment moyen de financier, investissement, et cela appelle tôt ou tard évaluation. Une évaluation qui servira de justification ou expliquera les ajustements en personne, en temps, en moyens. Il ne faudrait pas confondre diffusion et communication. On pourrait dire que bien diffuser, c'est propager avec efficacité, obtenir qu'un public cible restreint soit concerné ou au contraire qu'un maximum de personnes soient touchées. Mais peut-on pour autant affirmer que ceux qui écoutent réunissent toutes les conditions qui leur permettent non seulement d'écouter, mais aussi d'entendre ce qui est diffusé à leur intention. La manière d'apprécier une diffusion, de tenter de valoriser la quantité et la qualité des impacts, révéleront mieux que des discours la personnalité du diffuseur qui vous emploie et vous permettront d'apprécier son rapport au public. Spectateur d'une succession quasi ininterrompue de programmes télévisés ou radiophoniques, nous avons par ailleurs l'impression de suivre une succession ininterrompue d'épisodes qui s'inscrivent dans une continuité sans fin. Cela ferait presque oublier qu'aussitôt perçu, l'image et le son disparaissent immédiatement. Il suffit de rater la diffusion d'une émission pour se rendre compte combien tout cela fait partie d'un monde de l'éphémère. Si vous interpellez un service d'archivage, on vous répondra que tel film ou telle série ne sera plus diffusée, qu'elle a déjà été programmée, qu'il y a un temps, il y a quelque temps, et qu'on ne peut rien y faire. On ne va pas lasser un public en rediffusant sans cesse un même programme. En effet, après sa première diffusion, un programme se voit élevé au statut d'archive, un peu comme si sa première apparition l'avait momentanément vidé de son contenu. Son avenir, à partir de ce moment-là, sera tributaire des modes, des opportunités, du bon vouloir d'un programmateur, des hasards d'une commémoration. Il reste toujours la possibilité, bien sûr, d'une rediffusion sur une autre chaîne, à un autre moment, un jour peut-être, quelques années plus tard. Mais pour être rediffusé, ce produit à nouveau demandera, ce produit d'une autre époque, demandera à nouveau des traitements particuliers, des ravalements de toutes sortes, des adaptations pour être à nouveau appréciés. Ces contraintes, quasi incontournables, permettent malgré tout la réalisation et le développement d'initiatives originales. Il faut des idées, bien sûr, une volonté pour les défendre, beaucoup de chance et bénéficier du hasard des rencontres ou du temps. C'est ainsi que naissent des programmes comme Inédit. Mais il me semble erroné de croire que la diffusion est une spécificité des seuls médias vedettes. Après tout, aujourd'hui, dans cette salle, nous diffusons des idées. Diffusion limitée, certes, mais particulièrement efficace, puisqu'il y a écoute, échange, suivi, presque chaque idée diffusée est assurée d'un impact et d'un retour. À côté de la grande diffusion, les actions de terrain ont aussi leur place et leur diffusion. Et la nuance est importante quand il s'agit de la mémoire. Si l'efficacité des outils médiatiques contemporains est séduisante, la diffusion d'idées ne peut se réduire à la seule diffusion télévisée et radiophonique. Évidemment, le chemin est plus rude, la route plus longue, mais chaque jour se développent, s'affirment de nouveaux réseaux complémentaires permettant une autre diffusion. Alors, chaque réseau de diffusion a engendré d'ailleurs ces sous-réseaux, réseaux parallèles que nous ne pouvons pas ignorer. À côté de la télévision, il y a eu, public ou privé, il y a eu les télévisions communautaires, les réseaux de vidéastes, à côté de la radio. Il y a eu les radios libres, locales, les cibistes, les chasseurs de sons, les collectionneurs de sons, à côté d'institutions muséales, il y a des centres recherche, il y a des groupements, associations diverses et volontaires, réalisant un travail aussi concret qu'efficace et complémentaire. Alors ces activités nous rappellent qu'il y a aussi l'avant et l'après-diffusion, la diffusion n'étant qu'une étape d'un long processus de communication. Si le programme inédit a pu exister et se développer pendant quelques 25 années sur les antennes de la RTBF, c'est qu'au-delà de tous ces pièges et contingences, il a gardé une certaine cohérence qui allait de la collecte à l'exploitation, de documents et de témoignages touchant au quotidien et devenant au fil du temps une sorte d'espace citoyen d'une mémoire collective. La fidélité du public ne s'est pas mesurée à l'aune des sondages, mais au travers des contacts et du courrier, nous proposant sans cesse de nouveaux documents, nous invitant à de nouvelles expériences et perspectives. Nous préparions la diffusion des programmes à l'intérieur d'un média en travaillant comme si nous étions sur le terrain. Les documents que nous découvrions n'avaient pas d'existence avant que nous les proposions comme des archives d'une époque. Et nous avons rapidement compris que la prise en considération des images et leur sauvetage dépendait étroitement de leur exploitation, dont la diffusion ou les diffusions faisaient partie. Aussi, chaque nouvelle découverte correspondait une réflexion sur nos interlocuteurs, sur les spectateurs qu'elle pouvait intéresser. Chaque film était considéré comme l'origine d'un nouveau projet, susceptible de remettre en question les propos ou la présentation même de l'émission, ou d'intéresser de nouveaux réseaux de créateurs, qu'ils soient scénaristes, écrivains, réalisateurs, créateurs d'événements ou simples animateurs. Nous ne nous sommes pas contentés de prendre conscience qu'une archive immobilisée était une archive morte. Nous nous sommes donné les moyens de les faire circuler dans les milieux extérieurs aux médias, dans les pays voisins, puis en Europe, enfin sur d'autres continents, sans cesse à la recherche de nouveaux interlocuteurs censés apporter des perspectives nouvelles. Et 25 ans plus tard, nous nous apercevons qu'en dehors de la diffusion, nous n'avons pas pris le temps de créer en Belgique un réseau de collecte et de stockage des documents. Le pays qui nous a permis de développer ce travail de mémoire, eh bien, ne dispose toujours pas de centre d'accueil, de centre de traitement pour ses archives. Nous voilà revenus au point de départ, invités à nouveau à diffuser nos convictions, à convaincre qu'ici aussi il faut collecter, sauvegarder, archiver et surtout exploiter les documents et les témoignages de particuliers et créer un lien qui soit l'adresse, l'interlocuteur, un lieu plutôt, qui crée un lieu qui soit l'adresse, l'interlocuteur pour toutes les informations et projets concernant ce domaine particulier. Une nouvelle association a été créée, Mémoires inédites, qui tente à la fois de concilier, qui espère pouvoir tenter, parce que les choses sont en cours, à la fois de concilier, de collecter, donc concilier collecte, numérisation et archivage d'images et de sons, cela avec des collaborations nouées avec toute institution concernée par l'audiovisuel, et tout cela aussi dans la perspective d'une exploitation optimale de nos mémoires orales et visuelles sous toutes les formes de diffusion existantes ou à inventer. Voilà, c'est ce parcours qui reprend maintenant une nouvelle, non pas orientation, mais qui entame un nouvel épisode auquel je vous invite à éventuellement collaborer ou à discuter. Merci de votre attention.